Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le volontariat de solidarité internationale est un excellent moyen de vivre une expérience forte à l'étranger. Un moyen de se retrouver dans un contexte culturel différent du sien et de s'impliquer sur des projets locaux. Ce statut, reconnu par le gouvernement français, permet chaque année à plusieurs milliers de personnes de s'expatrier. L'ONG Enfants du Mékong envoie régulièrement des volontaires en mission dans les pays d'Asie. Les volontaires, appelés « Bambou », participent aux missions de l'association et veillent à son bon fonctionnement. C'est dans les rues de Luang Prabang au Laos que je rencontre Marie et Manon, deux volontaires qui partagent volontiers leur expérience de vie. Bon, l'émission s'appelle « Regarde ailleurs ». Regarde ailleurs, c'est vraiment cette envie d'élargir sa vision sur soi, sa vision sur le monde à travers les différentes expériences des gens, des voyageurs, des réalisateurs, des écrivains, des photographes que je peux rencontrer dans différents pays du monde. Là, on se retrouve dans un pays d'Asie du Sud-Est et je suis en présence de ce qu'on appelle des bambous, avec moi deux bambous. Donc les bambous sont des volontaires de solidarité internationale qui travaillent pour une ONG française Enfants du Mékong qui est représentée en Asie du Sud-Est. Donc j'ai vu sur les réseaux sociaux des photos, sur la page d'Enfants du Mékong, les photos qui ont été faites par Manon. Et donc je t'ai envoyé un message pour te dire, ah bah tiens, j'aimerais bien prendre le temps de rencontrer une bambou pour pouvoir mieux comprendre ce qui motive aujourd'hui les jeunes Français à prendre le large pendant une année, voire plus. Et tu m'as répondu, bah ouais, pas de problème, si tu veux, je viens même avec une deuxième bambou. Donc cette émission, nous aurons Marie et Manon dans le micro, enfin avec nous, pour nous parler un petit peu d'elles déjà, de leur parcours personnel, de ce qui les ont amenés à choisir ce statut de VSI. Et on parlera dans une deuxième partie de l'émission de comment ça se passe finalement, cette expatriation. Donc peut-être on va commencer par toi, Manon.
Je m'appelle Manon, j'ai 27 ans, bientôt 28. Je devais partir en 2020, donc avant le Covid. J'avais mis en pause toute ma vie professionnelle pour partir. Je me questionnais beaucoup sur mes choix pro et j'avais besoin de voir autre chose, de me sentir utile surtout. Et donc je me suis engagée pour un an auprès des jeunes. C'était, une valeur humaine qui me tenait à cœur de m'engager auprès des jeunes. J'avais fait un voyage au Cambodge en 2016 et j'avais été énormément touchée par leur situation. Du coup, j'avais envie d'aider, de voyager autrement, voyager utile.
Donc c'est la première fois que tu fais une mission en tant que VSI.
Ouais.
Tu dis se sentir utile. J'ai l'impression que cette notion du sens aujourd'hui revient de plus en plus dans nos existences, de plus en plus de jeunes. Je ne sais pas ce que tu as fait comme étude, mais souvent on se rend compte qu'on vit dans un système qui marche un peu sur la tête. Et cette notion de remettre du sens paraît essentielle dans le cœur et dans l'esprit de beaucoup de personnes.
Ouais, c'est ça. Moi, j'ai fait des études de photographie et design graphique. Et ça faisait plusieurs années que j'étais à mon compte en tant que photographe et salarié en tant que graphiste. Et en fait, j'avais l'impression de tourner en rond, en fait. Je créais beaucoup, j'adore créer, mais je savais pas pourquoi. Enfin, il n'y avait pas vraiment de finalité utile, à mon sens en tout cas. Et ouais, j'avais envie d'agir concrètement, en fait, pour... Ouais, c'est ça, ce sentiment d'être utile. Je sais pas pourquoi, si c'est une génération qui change, qui a envie d'aider, mais... Moi, c'est mon cas en tout cas.
Donc ce sentiment, cette envie d'aider, donc il y a un statut, on en parlera après. Donc VSI, volontaire de solidarité internationale, c'est peut-être une des clés possibles pour pouvoir vivre une année, une expérience à l'étranger. Donc on parlera de ce statut, comment ça fonctionne et comment est-ce qu'on fait pour pouvoir vivre, partir dans une mission à l'étranger. Mais Marie, c'est ça, c'est Marie. Donc mais avant de parler de ce statut, Marie, donc toi, quelle est ton histoire, qui es-tu?
Alors je m'appelle Marie, j'ai 25 ans. Alors moi j'ai fait, je suis auxiliaire de puériculture en maternité, donc j'ai décidé, enfant du Mékong pour moi ça avait tout son sens parce que déjà j'ai gardé ce lien avec les enfants qui est hyper important pour moi. Je suis trop heureuse quand je suis auprès des enfants et mes parents parrainent depuis 25 ans aussi un enfant du Mékong et pour moi ça n'avait pas de sens d'aller voir dans une autre association pour partir. Et j'avais, comme le dit Manon, envie d'être utile et de me rendre et d'être au service de ces populations pendant un an. Aussi loin, c'est compliqué, mais finalement, j'ai eu une expérience incroyable.
Cette envie d'être utile, donc pareil, tu partages aussi ces valeurs de la solidarité, de l'humanité. Donc toi, enfant du Mékong, c'était quelque chose qui t'était très familier, puisque tes parents parrainent depuis plusieurs années, 25 ans, tu disais. Donc parle-moi du parrainage. Qu'est-ce que c'est que pour toi le parrainage qu'il a vu finalement au travers de tes parents?
Le parrainage, c'est de participer à l'éducation d'un enfant, que ce soit dans sa vie, dans sa scolarité, que ce soit à l'école ou même dans sa vie, d'après, dans ses études, tout ça. Et mes parents tiennent beaucoup aux études et ils nous ont beaucoup entourés, moi et leurs enfants. Et du coup, ils avaient envie de venir aussi en aide à ces enfants. En fait, ils ont entendu parler par mon grand-père qui était à fond dans cette association. Et donc, ils ont voulu participer à ça et à l'éducation de ces jeunes enfants qui n'ont pas toujours la chance de pouvoir faire des études.
Et toi, en tant qu'enfant, donc, tu voyais les lettres des fioles de tes parents qui arrivaient à la maison ?
Ouais, je les voyais. Je comprenais rien parce que c'était il était en Thaïlande, en Thaï. Mais ouais, c'était trop chouette de pouvoir voir qu'il écrivait des lettres à mes parents qui se connaissaient pas, et il envoyait des photos, et c'était trop chouette, c'était trop beau de vivre sur ça.
Je sais qu'il y a certains parrains qui essayent de retrouver leur filleule, de voyager. Ça peut aussi être une manière de voyager utile. Aujourd'hui, on questionne aussi beaucoup le tourisme et le déplacement des populations. Et c'est vrai que de parrainer un enfant et d'aller à sa rencontre, c'est une manière de donner du sens, encore une fois, dans cette quête du sens, d'offrir du sens à son voyage. Est-ce que tes parents ont pu rencontrer l'enfant, le filleule qu'ils parrainaient ?
Non, malheureusement, pendant 25 ans, ça a tourné pas mal dans les fioles parce que à bout d'un certain âge, les fioles partent vivre leur vie et trouvent un travail, mais ils n'ont pas eu la chance de venir en Asie pour les visiter. Mais je pense qu'ils auraient beaucoup beaucoup aimé.
Et donc toi, ton histoire, tu as choisi quand tu as voulu vivre à l'international, c'est vers enfants du Mékong que tu t'es dirigé.
Tout de suite, j'ai eu aucun doute et d'ailleurs j'avais déjà postulé auprès d'eux en 2017, juste après mon bac. Mais à ce moment-là, je faisais que repousser les chances de mes études et je sentais que c'était beaucoup trop tôt. Et ils l'ont ressenti aussi d'ailleurs suite à l'entretien que j'ai eu avec eux. Et du coup, je les ai re-rencontrés là cette année et là j'ai senti que c'était maintenant. Et d'ailleurs, je ne regrette pas du tout.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Donc là, toutes les deux, vous êtes ici depuis 5 et 6 mois dans le cadre du VSI. Donc qui c'est qui veut me parler de ce statut ? Ce que c'est qu'un VSI ? Comment est-ce qu'on devient VSI ? Pour donner peut-être envie à d'autres jeunes qui eux aussi ont envie de partir vivre une expérience forte à l'étranger, à l'international.
Le statut VSI, c'est un gros engagement quand même parce que c'est un an minimum, un an sur le terrain, donc il faut être prêt aussi à dire au revoir à notre confort français. Et moi, personnellement, c'est ce que je recherchais. Mais ça peut être un choc des cultures, du quotidien, de s'adapter à la mentalité asiatique. C'est un gros engagement, mais c'est une pause aussi qui fait du bien. Après, c'est un contrat très rassurant. Moi, j'avais pas peur, mais mes parents, beaucoup. Et c'est un contrat qui est délivré par l'ambassade de France. Et du coup, on est assuré, on est suivi. On a un lien, toujours un lien avec le staff à Paris. Du coup, ça peut rassurer de ne pas être complètement perdu ici, tout seul. Parce qu'on est quand même très isolé dans nos missions. Donc c'est bien de savoir qu'on peut compter quand même sur l'asso qui est toujours là.
Oui, et puis le statut de VSI est un statut qui est reconnu par le gouvernement, par l'État. C'est un statut qui ouvre aussi des droits de cotisation à la retraite, je crois, aussi des droits au chômage, et qui assure aussi aux volontaires, parce que ça reste un statut de volontaire, mais qui lui assure quand même une forme de, je sais pas qu'on appelle ça, une indemnisation.
Oui, c'est ça. On est indemnisé. Pour nous, c'est une année à zéro, en fait. C'est une pause, clairement, où on gagne rien, mais on est indemnisé pour pouvoir vivre ici sans rien sortir de notre poche, personnellement. Donc, c'est aussi très avantageux. Ça aide aussi à sauter le pas, quoi.
Donc concrètement, comment tu gères ton quotidien? Qu'est-ce que tu fais ici dans ta vie de tous les jours? Ou peut-être on va recommencer au début, donc tu fais le choix de devenir VSI, donc là il y a une formation hein, je crois qui est dispensée avant de partir, parce que comme tu le disais c'est un engagement qui est un engagement fort, et on se retrouve quand même plongé dans un contexte culturel radicalement différent du sien, et c'est pas toujours facile, donc il y a quand même un accompagnement qui est offert en amont pour être sûr qu'on ait les reins suffisamment solides et qu'on tienne le coup.
Oui, c'est ça. La formation est courte, c'est une semaine avec Enfants du Mékong, mais très très importante. Il nous forme beaucoup au fait que la mentalité asiatique n'est pas du tout la même qu'en France. En France, on a l'habitude, même malgré nous, d'être dans la rentabilité et la productivité, ce qui n'est pas du tout le cas ici. Et même si je me sentais plutôt en adéquation avec ça en France... ici, c'est difficile. Il faut être patient. On travaille beaucoup avec les locaux, donc il faut s'adapter à eux. Nous, on leur apporte de l'aide, on leur apporte du soutien, mais c'est eux qui font le travail, quoi. C'est eux qui distribuent l'argent. Nous, on suit, on soutient, mais donc quand on a besoin de renseignements, quand on a besoin d'aller visiter un village, il faut qu'on s'adapte à leur rythme. Si c'est pas aujourd'hui, ce sera peut-être demain ou dans une semaine, et on le sait jamais, surtout au Laos. Il faut avoir le temps, il faut ouais, c'est ça, il faut être patient, il faut être bopenyang. Bopenyang, c'est pas grave, quoi. Il faut jamais trop attendre, en fait. Si on est trop souvent derrière eux, moi je me suis rendu compte de ça très rapidement, c'est que je leur demande quelque chose une fois, au début j'avais l'impression qu'ils m'oubliaient, en fait non, ils m'oublient pas, c'est juste ils me répondront quand ils auront le temps de me répondre, quand ils auront choisi que là c'est le moment. Donc au début je les relançais beaucoup, j'étais beaucoup derrière eux, et en fait ils oublient rien, ils sont très très attentionnés, mais voilà, faut pas être trop vouloir produire vite, beaucoup, tout de suite. Et c'est dur au début. C'est même dur encore au bout de 5 mois de décrocher de cette mentalité française, quoi.
Ça va, c'est bon, on est reparti. Donc, on parlait du VSI, ce statut qui permet de vivre une expérience forte à l'international. Et oui, Marie, par rapport à la formation qui vous a été dispensée avant de partir, qu'est-ce que tu gardes? Qu'est-ce qui fait écho en toi maintenant que tu es sur le terrain, hein, de tous ces conseils? Donc c'était une semaine de formation pour pouvoir se préparer à l'interculturalité. Qu'est-ce que tu gardes de cette formation et qu'est-ce qui t'a vraiment, qu'est-ce qui te fait tilt par rapport à ce que tu observes dans ta mission, dans ta vie du quotidien ici au Laos?
Pendant la formation, ils nous ont vraiment sorti tous les côtés durs de la mission quand même, pour nous pousser dans nos retranchements. Et je trouve que en tout cas moi dans la mission ici à Langprabang, c'est quand même pas tout l'opposé, mais du coup je suis agréablement surprise, parce que c'est moins dur que ce que j'imaginais. Après, il faut s'adapter à la culture d'ici, qui n'est pas toujours facile, mais on a été très bien informés, surtout sur la culture, justement, sur la distance aussi qu'on a avec la France, sur tout ça, et voilà ce que je retiens.
Et toi, Manon, qu'est-ce que tu retiens de cette formation qui vous a été donnée pendant une semaine avant ton départ?
Je crois que ce que je retiens le plus, c'est le côté patience, quoi. Voilà, qu'il fallait s'adapter, qu'il fallait avoir de la patience et qu'il fallait se laisser porter aussi à ça. Et c'est vraiment ça que je retiens, quoi. Même si on comprend rien, il y a des fois où nos responsables m'ont emmené quelque part. Ils m'ont dit où, mais j'ai pas compris parce qu'ils me parlaient en là-haut. Et du coup, j'ai suivi. Et donc, je savais pas où j'allais, je savais pas pourquoi, mais j'y allais. Et ces souvenirs-là, ils sont incroyables. Et ça fait écho avec la formation, dans le sens où on y va. On vient ici pour se donner, pour se laisser porter et se laisser surprendre, quoi. Et ça, c'est trop bien.
Je veux bien qu'on parle émotionnellement de ce qui se passe en soi, parce qu'il y a aussi dans cette formation, on explique que, ben, il y a des phases, différentes phases. Hein. Quand on arrive, il y a le côté souvent émerveillé, peut-être un peu difficile les premiers jours, mais après, on réapprend une culture, des odeurs, des saveurs, une langue. Mais voilà, ça passe par différentes phases émotionnelles, où des fois, ben, c'est plus compliqué que d'autres. Qui c'est qui a envie de prendre la parole pour m'expliquer un petit peu les questionnements intérieurs qu'on peut avoir quand on est VSI dans un projet de solidarité internationale?
Alors moi, contrairement à d'autres, j'ai pas eu ce côté émerveillement en arrivant, loin de là, justement. J'ai eu ce coup de mou dès le début, dès le premier jour, et ça m'a remise en question. Je me demandais ce que je faisais là, si j'étais prête vraiment à vivre cette année. Et donc j'ai commencé un peu en bas de l'échelle, et puis finalement, quand je suis arrivée à Langkrabang, c'était magique, quoi. Et je regrette pas du tout, et heureusement que je me suis forcée, je me suis pris sur moi les premiers jours. Je suis pas arrivée à Langkrabang tout de suite, j'étais à Vientiane au début. Et finalement, je regrette pas du tout, et je suis contente d'avoir pris sur moi et de m'être forcée à vivre les quelques jours à la capitale, même si c'est pas le meilleur endroit. Et finalement, ici c'est incroyable, donc je suis bien contente d'avoir fait ce passage un peu dur. Et puis finalement, ici c'est top, donc...
Qu'est-ce qui t'a fait douter quand tu étais à Vientiane? C'était quoi les conditions de vie? C'était le projet en lui-même? C'était voilà. D'où venaient tes doutes? Comment tu pourrais nous les expliquer?
Alors moi, il y avait la chaleur qui me dérangeait beaucoup à la capitale. Il y avait les conditions de vie. Je suis arrivée dans une maison qui n'était pas propre. J'avais beaucoup de mal à m'adapter à la nourriture aussi. Et vraiment, tout ça, je me suis dit, je vais vivre comme ça pendant un an, ça va être très compliqué. Est-ce que je vais tenir? Est-ce que je vais être assez forte? Et après, j'avais pas encore rencontré de là-haut. Donc, bon, la population en soi, je l'ai trouvé super. J'ai été très bien accueillie. Parce que tous les gens au là-haut, ils sont hyper souriants, ils sont très accueillants. Ils te donnent tout. Mais leur culture, j'avais du mal à m'y adapter.
Et toi, Manon?
Moi c'est un peu différent. Déjà je connaissais l'Asie, j'étais déjà venue, donc moins surprise que certains autres volontaires qui connaissent pas. Mais au début j'étais dans l'émerveillement, j'avais hâte de commencer ma mission. C'est pour ça que je suis arrivée d'ailleurs un mois avant les autres. Ça faisait 2 ans que j'attendais la mission, donc j'avais vraiment hâte d'être sur le terrain. Et je suis arrivée et j'étais en pleine forme et je m'adapte très facilement aux différents milieux de vie, et même si je dors sur une planche, c'est pas grave. Mais ça, au bout de 5 mois, ça devient plus dur. Ça devient plus dur. Je me suis imposé des vacances parce que là, je sentais que j'étais fatiguée. Parce qu'on est en adaptation permanente, et même si j'arrive facilement à m'adapter à la nouvelle nourriture, à la nouvelle culture, et ben c'est quand même un effort pour moi, parce que c'est pas dans mes gènes. Donc tous les jours, puis on travaille beaucoup, on a beaucoup de travail, donc on est à fond dedans tout le temps. Pendant 5 mois, moi j'ai pris aucun jour off, donc là il y a eu besoin de couper. Là je commençais à vraiment être trop fatiguée, donc j'étais en phase je veux rentrer en France. Et puis bon, je sais qu'après mes vacances ça va repartir à fond parce que j'adore cette mission, mais oui, il y a des hauts et des bas, il faut s'y attendre, il faut s'y préparer. Quand on le sait, c'est plus facile de passer au-dessus des bas, quoi. On sait que ça va passer. On appelle l'autre volontaire, on prend un peu de temps pour soi et puis ça repart, quoi.
Mais c'est ça, vous n'êtes pas non plus complètement tout seul sur le terrain. Enfin, sur le terrain peut-être si, mais il y a quand même un accompagnement qui est offert, qui est proposé, des moyens de communiquer ou en tout cas d'être entendu ou écouté au moins par le siège.
Oui, oui, il y a toujours quelqu'un. Pour nous, enfin en tout cas pour moi, c'est pas forcément... Mon réflexe, c'est pas forcément d'appeler le siège. Parce que le siège, ça reste connecté au travail et à la mission, en tout cas. Et donc, je pourrais les appeler en cas de coup de mou. Moi, j'ai plus tendance soit à appeler les autres volontaires parce qu'ils savent ce qu'on... Enfin, on vit tous la même chose, plus ou moins. Du coup, on peut plus facilement échanger sur ce qui se passe. J'appelle pas trop ma famille, je suis pas... Ni mes amis, je change un peu avec eux, mais je me tourne plus vers les autres volontaires. Et on a toujours quelqu'un dans tous les cas qui pour nous soutenir, même si on veut appeler le siège, ils sont toujours présents. Si moi je veux appeler ma famille, je peux, parce que maintenant c'est très facile d'avoir des contacts. Donc les coups de mou ne durent pas très longtemps, quoi.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Ok, donc là on se retrouve dans un pays, petit pays hein, d'Asie du Sud-Est, hein, le Laos. Donc un pays qui est relativement pauvre économiquement. Donc vous, les projets sur lesquels vous bossez sont essentiellement en lien avec l'éducation, je crois, hein, c'est ça ?
Eh ben, ils sont uniquement liés à l'éducation. Moi, par exemple, je travaille dans une école les sourds muets, et tous mes autres programmes, c'est des enfants qui sont soit étudiants que je dois suivre, soit encore à l'école que je vois régulièrement. Et donc c'est uniquement lié à l'éducation.
Manon, est-ce que tu pourrais nous emmener avec toi sur une journée type de ton travail, de ta mission ici au Laos, dans la ville de Takak ?
Alors, journée type, je me lève très tôt. Moi, je prends tous mes repas avec les sœurs. Donc, j'ai un logement indépendant, mais je prends mes repas avec elles. Donc, je me lève tôt pour déjeuner avec elles. Et moi, je m'occupe de programmes qui sont surtout à l'extérieur de Takak, dans les petits villages. Donc en général, je pars soit avec mon scooter, soit avec un responsable et donc sa voiture, dans un petit village. J'aime bien y aller soit le week-end, soit sur 2 ou 3 jours pour pouvoir avoir l'occasion de voir les enfants quand ils ne sont pas à l'école, passer du temps avec eux. Donc je pars souvent, j'y vais le week-end, donc j'y vais pour la messe. La messe me permet de créer un contact avec les gens sur place. Ensuite, on va souvent manger dans une famille du village qui nous accueille, qui nous fait à manger. Là, pareil, il faut se laisser porter parce que on n'a pas envie de trop déranger. Et en fait, pour eux, c'est normal. Donc, on mange avec eux, on échange, on rigole. Je trouve que les Laotiens rigolent beaucoup, donc ça, c'est super. Et puis, l'après-midi, j'essaie d'organiser un jeu, des activités avec les enfants, de visiter les familles des enfants qui sont parrainés pour avoir des nouvelles, savoir si ça se passe bien, ce qu'ils font, voir leurs conditions de vie aussi. Et puis, en rentrant à Takak, j'écris les nouvelles. Je donne donc beaucoup de mises à jour parce qu'il y a beaucoup d'enfants pendant le Covid qui ont arrêté l'école. Donc il faut écrire, expliquer pourquoi, expliquer la situation du Laos. Et puis pour ceux qui n'ont pas arrêté l'école, donner des nouvelles aux parents, leur dire que leur filleule va bien, envoyer un maximum de photos. Et puis gérer aussi les comptabilités dans un second temps.
Quand on parle de parrainage, hein, donc c'est soit individuel, soit collectif. Donc j'aimerais que vous m'expliquiez la différence entre les deux. Mais quand on parraine, donc on accompagne aussi un enfant hein, vers l'éducation, vers peut-être un avenir, une profession, un métier. Donc peut-être différencier parrainage individuel et collectif.
Alors le parrainage individuel, c'est donc un parrain qui envoie une somme d'argent pour aider un enfant. Pour ses études, pour l'école, donc un enfant. Et le parrainage collectif, c'est un groupe d'enfants. Par exemple, moi, dans mon école des sourds muets, c'est un parrainage collectif. En fait, c'est un parrain qui aide un groupe d'enfants, pareil, dans leur scolarité ou dans leur étude supérieure.
Comment sont identifiées les familles, les enfants parrainés ?
Ils passent comme une espèce de petit entretien. En fait, on va à leur rencontre et on regarde leurs conditions de vie, on regarde s'ils vont à l'école. C'est la première question qu'on pose d'ailleurs, si les enfants vont à l'école. On regarde si les parents ont un travail ou pas, leur maison, comment ils vivent dans leur maison, s'ils se nourrissent correctement. Et c'est plein de critères comme ça qui font que nous, on ne prend pas la décision tout seul, bien sûr, le siège donne leur accord, mais c'est comme ça qu'on choisit un peu les enfants parrainés.
Est-ce que l'une de vous deux aurait une histoire, une histoire à me raconter, hein, peut-être qui vous a touché par rapport à une famille qui est parrainée ?
Moi, j'ai rencontré une famille récemment, d'ailleurs. J'ai créé d'ailleurs des fiches filleuls. Ils ne sont pas encore parrainés, mais ils sont en cours. Donc j'ai rencontré cette famille, ils ont 7 enfants. Et je suis allée dans leur maison. En fait, c'est une planche qui est un peu en l'air. les planches en bois sur lesquelles ils dorment, sans toit, sans mur, pas du tout terminé. Ils dorment là la nuit quand il pleut pas, et quand il pleut, ils sont dans une maison de 5 mètres carrés, dans une pièce de 5 mètres carrés où ils sont dans tous les 7 plus les parents. Et j'avoue que ça m'a mis une belle claque. Quand je voyais aussi l'eau avec laquelle ils se lavaient, c'était la même eau avec qu'ils buvaient. Ils ont très peu de nourriture. Il y a une période où ils volaient la nourriture dans l'école des souris moulinards qui est juste à côté, dans le jardin. Et maintenant, les sœurs avec lesquelles je vis, ils les aident beaucoup, mais j'ai demandé à EDM de prendre 2 enfants en charge parce que c'est une famille qui est dans un gros besoin. Et ça m'a énormément touchée.
Donc tu peux aussi, à titre personnel, identifier des familles et proposer, donc faire, tu parles de fiches, hein, donc créer des fiches pour les proposer à des familles en France pour qu'ils deviennent les parrains et marraines.
Oui. En fait, les sœurs, Langue Pramanque, c'est pas très grand dans le sens où les sœurs connaissent vraiment beaucoup de monde. Et en fait, elles me présentent les familles qui, elles, pour elles, pensent qu'ils ont besoin d'être aidées. Et c'est vrai que cette famille-là m'a énormément touchée et j'ai pu rencontrer les 7 enfants. Et maintenant, ils viennent régulièrement chez les sœurs pour chercher à manger, pour venir jouer, pour venir s'amuser, parce que chez eux, ils n'ont rien. Et pour moi, ça fait du sens. Quand je me dis que ces enfants, ils ont besoin d'être aidés. Et on peut pas prendre beaucoup d'enfants dans une même famille, parce qu'il y aurait trop de jalousie avec les autres parrainages dans les autres familles. Mais si je pouvais prendre les 7 enfants, j'aurais pris les 7 enfants. Mais voilà, on a pris les plus jeunes. Et maintenant, j'attends qu'un parrain se dévoue pour aider ses enfants.
Et toi, Manon ? Une histoire que tu aimerais partager ?
La situation de Marie, on la rencontre, enfin moi je l'ai rencontrée souvent dans les petits villages où je vais. Non, il y a une situation qui a l'air de rien, je pense, quand je vais la raconter, c'est nul, mais pour moi ça m'a touchée. Les enfants sont très impressionnés quand on va chez eux, quand on arrive dans leur village. Ils ne comprennent pas toujours qui on est, ce qu'on fait. C'est difficile de leur expliquer avec la barrière de la langue. Moi, j'essaye d'apprendre le là-haut pour casser un peu cette barrière-là avec eux. Mais il y a un jour où je visitais des familles et donc j'avais échangé avec la famille, j'avais pris toutes les informations pour faire la fiche filleule. Et la petite était très timide, elle avait beaucoup de mal à me répondre. Et en fait, quand je suis partie, donc je commence à m'éloigner de la maison, et la filleule, la petite jeune fille qui avait 6-7 ans, me suivait avec ses amis. Et puis elle s'est approchée tout doucement de moi et elle m'a attrapé la main. Et juste ça, en fait, ce geste, il m'a énormément touchée. Elle a senti, en fait, ce que j'allais faire pour elle. Enfin, c'est pas moi en direct, mais nous, c'est ce qu'on représente. Et même si moi je la sentais très timide, très distante, en fait, c'est un petit geste, quoi. Elle répondait pas à mes questions, mais elle est venue attraper ma main et c'est très très touchant.
Tu parles du langage, hein, donc effectivement le langage verbal et non-verbal, là c'est clairement du non-verbal. Il y a aussi le langage des émotions, hein, qui nous relie tous, parce qu'on est finalement tous joyeux de la même manière, tristes de la même manière et traversés par les mêmes émotions. Mais il y a aussi effectivement le langage verbal, la barrière de la langue. Donc toi, tu disais que tu essaies d'apprendre le là-haut. Et toi, Marie, comment tu fais par rapport à cette langue qui n'est pas forcément évidente ?
Alors moi, déjà, quand j'ai reçu ma fiche de poste après avoir eu cette réponse de DM, j'avoue que j'ai été un peu surprise parce que je ne parlais pas du tout le langage des signes. J'ai appris d'ailleurs qu'il n'était pas universel, donc finalement, je devais tout apprendre de A à Z. Et en fait, je m'en suis rendu compte que c'était beaucoup plus facile d'apprendre une langue des signes qu'une langue parlée. J'ai beaucoup de mal à apprendre le là-haut, et le langage des signes, finalement, je l'utilise tous les jours avec les enfants. Et en fait, ça vient tout seul et c'est facile, quoi.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Donc toutes les deux, vous êtes volontaires VSI au Laos. Donc voilà, peut-être donner des conseils à ceux qui ont envie de se lancer dans l'expérience. Est-ce qu'il faut y aller ? Est-ce qu'il faut douter ? Voilà, que dire à tous ces jeunes et moins jeunes, hein, parce que c'est un statut qui est réservé, je crois, jusqu'à l'âge de... Enfin, il n'y a pas d'âge, on peut être VSI, c'est limité à 6 ans dans sa vie, mais tout le monde peut devenir volontaire de solidarité internationale. Donc voilà, qu'est-ce que vous pourriez partager avec celui qui a envie de se lancer dans une mission de solidarité?
Alors, il faut avoir peur, je pense. Ça nous oblige, avant de partir, à se poser les bonnes questions, à se préparer à vivre le choc culturel, la distance avec nos proches. Tout ça, c'est fait partie des questions qu'on se pose avant de partir, parce qu'on se lance vers l'inconnu et donc ça fait un peu peur. C'est normal et c'est bien, parce qu'arriver ici en se disant « je suis prête, j'ai pas peur », je pense que ça passe pas, parce que dans tous les cas on est surpris, dans tous les cas il y a le choc. Voilà, puis après la peur, il faut pas hésiter, quoi. C'est une expérience incroyable, très humaine, des souvenirs, on s'en fait tous les jours. Moi je suis surprise tous les jours, encore après 6 mois. Il faut se lancer malgré la peur, quoi. Mais c'est important d'avoir peur.
Marie ?
Bon, alors moi, si j'avais écouté cette peur, je serais pas partie. Mais j'avais, enfin, c'est vraiment une expérience de dingue et on le vit pas des années dans notre vie. C'est une aventure à vivre, je pense, que ce soit en Asie ou ailleurs. Et faut le vivre à fond. Et je pense que après, toutes les missions sont différentes, mais en fait c'est indescriptible. C'est même dur à raconter parfois quand on n'est pas sur le terrain ou dans l'action. Mais c'est une aventure de dingue.
Merci à toutes les deux. Merci.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Venez d'écouter l'émission Regarde ailleurs, une émission que j'enregistre lors de mes différents déplacements en tant que photographe, reporter et voyageur. J'aime bien penser qu'une rencontre peut en inspirer beaucoup d'autres et j'aime donner la parole à tous ceux qui ont un parcours de vie en lien avec le voyage, l'interculturalité, le mouvement ou la découverte du monde ou la découverte de soi.